Bonsoir. On est là donc pour passer une heure et demie ensemble, un peu moins d'une heure et demie parce que ça sera fermé à 10h30. Donc on va évoquer ce soir le tango. Donc le programme a indiqué du tango après toute chose. Et en recopiant le programme pour mes étudiants, j'ai écrit dans mon papier du tango avant toute chose. Mais après tout, après ou avant, ça dépend comment on se situe dans le temps. Et je pense que pour nous, du tango après et du tango avant, de toute façon, c'est du tango toujours. Un tango un jour, du tango toujours. Alors voilà, on va essayer d'évoquer à la fois la danse, la musique et les mots du tango. Donc on va se présenter parce que nous sommes quatre et moi je vais ce soir donner la dominante aux mots. Je suis invité comme conférencier à parler. Les autres se présenteront après. Donc moi je m'appelle Rémi S. Je fête ce soir mes 50 ans de tango. J'ai commencé à danser le tango il y a 50 ans. C'est-à-dire, quand j'ai réfléchi à ça, on m'a demandé cette semaine, ça fait longtemps que tu danses le tango. Je me suis aperçu que le tango, en France, a un siècle aujourd'hui, puisque le premier tango dansé à Paris était en 1905. Et moi, j'ai commencé en 55 à danser. Bon, ce n'était pas du tango argentin, c'était du tango musette, etc. Mais ça fait 50 ans que je danse. Et je me suis aperçu que les gens n'avaient pas, jusqu'à maintenant, écrit beaucoup de livres sur le tango concernant la danse. Hein, il existe à peu près 400 livres sur le tango dans le monde et il y en a moins de 10 qui s'intéressent à la danse. Donc j'ai consacré ma vie à faire l'histoire de la danse de couple, la valse et le tango. Mais je vais y revenir. Et donc, disons que je suis un fanatique de la pratique de danse et que j'ai essayé, comme intellectuel, de rassembler des livres. J'en ai plus de 200 dans mes bibliothèques sur le tango, mais j'en ai un millier sur les danses de couple, de synthétiser un peu toute cette production et d'élaborer une histoire suivie. C'est ce que je vais vous présenter ce soir. Je passe la parole à Charlotte.
Bonsoir à tout le monde. Charlotte S., donc vous devez avoir entendu déjà ce nom-là juste avant. Je suis la fille de Rémi. Ma rencontre avec le tango s'est faite il y a un peu plus de 10 ans. J'ai rencontré par hasard le tango argentin. Pas tout à fait par hasard, parce que quand même mon père était très intéressé par le tango. Mais un jour, on entend de la musique et...
Ça fait 15 ans, j'ai l'impression. 15 ans. Le temps passe.
Ah, j'ai déjà vu comme ça, hein, oui. Ah, peut-être 15 ans. Et bon, alors 15 ans. Et on entend de la musique, pas loin de chez nous, on nous dit ça sonne un peu tango, on dirait du tango. On rentre dans la salle, c'était la Maison Verte, il y a des gens dans la salle qui se doutent, qui connaissent déjà cette salle, une salle dans le 18e. Et là, on voit des gens danser, une cinquantaine de personnes danser. Et c'est le flash pour tous les deux, pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est une espèce de fascination pour cette danse de couple. J'avais beaucoup de plaisir à danser une valse musette avec mon père dans un bal, mais moi qui étais danseuse, bon, je rêvais un peu plus de complexité dans la danse. Et avec le tango, j'ai eu l'impression de découvrir quelque chose assez extraordinaire. Une danse où, semble-t-il, il y avait un langage et une improvisation, une force inouïe, qui m'a donné envie, d'un coup, immédiatement, de me dire j'ai envie de danser ça, je trouve ça fabuleux. Et donc voilà, et donc je suis danseuse, j'ai commencé à travailler à 17 ans avec le tango, j'en ai donc 26 maintenant, donc ça fait déjà un moment. Et avec Miguel qui est juste à côté de moi, on a monté une association en l'an 2000, parce qu'on avait envie un petit peu de développer ça, on donnait des cours, mais on avait envie de donner un petit peu un esprit associatif pour développer le tango, mais sous toutes ses formes. On a fait des événements de rue, des spectacles. On avait envie de varier nos activités à partir du tango parce que c'est vraiment une culture tellement énorme qu'on avait envie de pouvoir vivre toutes ses facettes. Voilà un petit peu pour me présenter autour du tango. Je pense que c'est pas mal.
Miguel ?
Bonsoir, bonsoir à tous. Miguel Gavis, danseur et chorégraphe argentin. Et j'arrive en France en 97. 98, je rencontre Charlotte et on se met à travailler ensemble. Et on fait Mordida de Tango et on tourne pas mal partout les coins d'Europe et du monde. Et mon rencontre avec le tango, c'est après avoir passé pour la danse contemporaine et la danse classique qui me donnait à manger. Et c'était un choix de synthétiser toute façon d'expression de cette façon en trouvant le tango. D'abord, c'était pour m'amuser, sortir avec mes copains et être tous ensemble, connaître des gens. Et après, j'ai trouvé ça comme la façon d'expression que pouvait m'approcher et synthétiser un peu la danse théâtre, toutes les façons d'expression, je pouvais la retrouver dans le tango. Et c'est pour ça que j'ai choisi le tango. Ce n'est pas que le tango m'a choisi à moi, parce que j'ai fait quand même 3 essais et c'est le 3e essai qu'il a réussi. Les 2 premières, c'était pas un réussi. Et jusqu'à que le 3e, on s'est trouvé les 2, le tango et moi.
Bon, je suis Victor Villena, je joue le bandoneon. Et j'ai commencé cet instrument qui était originalement argentin par adoption quand j'avais presque 9 ans. Ma rencontre avec le tango, je ne me rappelle pas parce que j'étais trop petit. Ma mère chantait le tango quand j'étais dans la berceuse, donc c'est vraiment très difficile pour moi il y a 10 ans, peut-être 20 ans, je ne sais pas. Et je suis devenu professionnel en Argentine en 1997, où j'ai intégré l'Orchestre National de Tango. Et après avoir parcouru un petit peu le milieu professionnel de Buenos Aires, j'ai décidé de venir en France, où j'ai étudié et travaillé pendant un premier temps avec Juan José Mossalini, qui est un grand musicien installé en France depuis longtemps. Et j'ai choisi de venir en France parce que j'ai vu que dans ces pays, même avec tous les défauts que vous les Français vous trouvez, et il y a beaucoup, beaucoup de place pour la création, que ce soit dans le tango ou dans les autres musiques. Et bon, si je restais en Argentine, j'allais avoir un parcours professionnel, mais ça allait être très difficile de rentrer dans un milieu où je pouvais vraiment me dévouer à la création. Donc, même si je ne suis pas compositeur, je participe dans des projets où on joue surtout de la musique originale. Bon, ce soir, je vais accompagner la danse et aider à l'illustrer. Et je vais jouer quelques pièces, dont certaines que j'ai jouées déjà quand j'étais très petit. Et donc pour moi, ça va être un peu un souvenir d'enfance. Et puis bon, je vais jouer aussi quelques pièces que j'interprète depuis pas longtemps. Voilà, merci.
Merci Victor. Donc on se met maintenant en place. On va commencer la conférence proprement dite. Donc, on va essayer de se centrer dans un premier temps sur la danse. Donc, au niveau historique, le tango a un siècle à Paris, bon, mais il est déjà un peu constitué dans les 10 années qui précèdent en Argentine. Et comment il s'est constitué? En quoi c'est intéressant d'évoquer le tango dans un échange Paris-Buenos Aires? 3 jours autour des allers-retours entre Buenos Aires et Paris. Les deux villes sont très importantes dans la constitution du tango. Sans Paris, peut-être que le tango n'aurait pas eu le dynamisme, l'essor qu'il a eu. Parce qu'en Argentine même, les Argentins le voyaient comme une danse... très mal famée, la bourgeoisie argentine ou même les classes moyennes considéraient que ce n'était pas une danse à faire apprendre aux enfants. Bon, donc les Parisiens qui étaient très excités à l'époque par l'exotisme, ils y faisaient venir des danseuses du Cambodge, d'Afrique, etc. Chaque année, il y avait des nouvelles danses un peu exotiques, ont accueilli le tango comme une danse de sauvage, entre guillemets, puisque c'est en 1808, en 1908, Giraudet parle du tango comme d'une danse de sauvage encore. Bon. Donc, des films ont été présentés dès 1900 à Lisbonne. À Paris, on a commencé à présenter chez le baron Rothschild les premières pièces de tango. Et qu'est-ce qui caractérise le tango par rapport à la culture? Comment d'abord le tango s'est constitué à Buenos Aires? Et d'autre part, comment il a pris sa place ici à Paris? Parce que finalement, il a pris à Paris une place différente de celle qu'il avait à Buenos Aires. Et quand il est retourné à Buenos Aires dans les années qui ont suivi son acceptation par le milieu européen, il a trouvé à Buenos Aires une nouvelle place. Donc les allers-retours entre Paris et Buenos Aires, c'est des allers-retours constants, puisque à Saint-Germain-des-Prés, vous avez pas mal d'Argentins à l'époque. Le fils du maire de Buenos Aires, par exemple, au moment où son père reçoit l'infante d'Espagne, lui danse le tango à Paris, etc. Donc il y a des jeunes un petit peu des milieux bourgeois argentins qui viennent passer 3 mois, 4 mois à Paris chaque année et qui commencent à danser ces danses. En Europe, la création en danse a été importante en 1789 ou les années qui ont suivi. Il y avait eu des tentatives de danse de couple avant 1789, mais ce type de danse était interdite par l'Église et par l'État. Hein, le 14 juillet 1789, les gens disent que les Parisiens ont pris la Bastille pour avoir du pain. Mais en fait, ils ont mis un poteau, si vous voulez, dans le sol. Ici, on danse. Et mon hypothèse, si vous voulez, c'est que la Révolution française s'est faite pour pouvoir valser, dans ce qui était totalement impossible avant. Donc, la valse est une danse populaire, hein, et elle arrive en Argentine en 1803. C'est-à-dire, il n'y a pas un grand moment entre le moment de sa création institutionnelle, c'est-à-dire le fait qu'elle soit plus poursuivie comme pratique de danse, et le moment où elle se diffuse dans le monde entier. Werther avait beaucoup contribué à la diffusion. Werther, c'était un roman de Goethe dans lequel l'histoire d'amour se greffe dans un bal. Et c'est la première fois qu'on parlait de la valse. Comme le roman a été traduit dans 15 ou 20 langues, en 20 ans, le mot de valse s'est répandu dans le monde entier. Les gens prenaient le bateau, ils ont été à Buenos Aires, et finalement à la Boca, on a dansé la valse dès 1803-1805. Cette danse-là était très très mal vécue en Argentine, puisque, si vous voulez, l'Argentine était collémontée à l'époque. Les gens qui avaient le pouvoir en Argentine, c'était des bourgeois assez prudes. Et de même que la valse avait mis 3 siècles à s'imposer en Europe contre les pouvoirs publics, en Argentine, les gens continuaient à lutter contre. Les Anglais ne l'accepteront qu'après 1817, mais les Argentins, encore en 1850, la considèrent comme une danse pornographique. Hein, donc la valse est une sorte de fer de lance, une danse européenne qui va être prise constamment par les nouveaux migrants qui vont arriver, les Italiens, les Français, les Allemands dansent tous la valse, donc ils vivifient la danse en Argentine, mais dans les bas quartiers. Bon, donc il y a dans l'histoire du tango la valse, et la valse est très importante encore aujourd'hui, vous allez l'entendre, puisque, si vous voulez, la valse fait partie du bal tango. Quand on parle du tango, pour nous, danseurs, c'est l'articulation de 3 danses essentielles, le tango, la milonga, dont on va parler maintenant, et puis la valse. Donc, la milonga, je vais revenir à la valse tout à l'heure, parce que pour montrer ce qu'elle est devenue sous l'influence de l'Argentine, parce qu'elle a vraiment énormément évolué, mais avant de revenir à la valse, je voudrais dire un mot de la marche. Hein, vous savez tous, si vous êtes des danseurs, que dans le bal musette, et encore avant, la marche est le fondement de beaucoup de danses. La polonaise, par exemple, qui est une danse de groupe ou d'autres, le fondement du pas, c'est une marche. Donc, quand on a préparé le spectacle, j'ai demandé à Victor, peux-tu me jouer une marche? Est-ce que tu sais, sur ton bandoneon, jouer une marche? Et Miguel, etc., on discutait, et il disait, non, nous, la marche, on ne connaît pas la marche. Les marches, c'est militaire, et nous, on ne joue pas de marche militaire sur notre bandoneon. Donc, on va, Charlotte et moi, danser une marche sans musique, puisque, si vous voulez, il n'y a pas de marche qui ne soit militaire. Pour vous montrer le pas, si vous voulez, le pas. Ensuite, Victor va nous faire un petit passo pour nous montrer comment, de la marche, on a fait des figures. Et puis après, on fera une milonga pour montrer que les Argentins ont un style de figure dans leur marche qui est quand même nettement supérieur au passo. Je signale pour votre information que, contrairement à ce qu'on peut croire, le passo n'est pas une danse espagnole. On ne danse pas le passo en Espagne. C'est une invention française. À une époque où l'Espagne était à la mode, on s'est mis, si vous voulez, à composer espagnol. Chabrier, Valteufel, tout le monde faisait des compositions espagnoles. Et les danseurs se sont dit, on va faire une marche espagnole. On va reprendre la musique de corrida. Là, la musique est espagnole. Mais on va faire des figures là-dessus. Et c'est quelque chose qui arrive après la milonga. Donc, chronologiquement, pour l'exposé, pour la présentation, on fait deux pas de marche. Je fais un pas de passo. Et puis après, on fait une milonga parce que là, c'est des vrais danseurs, des professionnels. Moi, je ne suis qu'un amateur. Hein. Je reste un amateur. Bon. Place à la danse. En France, la marche, c'est une danse de mariage. Dans les mariages, on fait comme ça. C'est ça, la marche. Donc, vous vous représentez assez bien ces fêtes de mariage à la française. Où on les trouve aussi en Italie. Hein. La marche, on la trouve aussi en Europe centrale. Mais voilà ce que ça a donné dans le passo. Alors, Victor, je joue un petit passo. Donc, peut-être que tu peux rester, Victor, sur ta chaise, parce qu'on va enchaîner, avec la valse. Donc, j'avais fait un petit détour par la marche. Donc, vous avez vu qu'ils l'ont quand même bien amélioré, la marche. Hein. La milonga, c'est finalement une danse rurale, au départ, qui est en fait une transformation de la marche, telle qu'elle a été importée vraisemblablement d'Europe avec la valse. Et qui est élaboré. Et d'un point de vue de l'histoire de la danse, ce qui est intéressant, c'est quel est le syncrétisme de plusieurs danses. Par exemple, dans la milonga, vous avez la marche, hein, au niveau des pas, c'est un pas de base, mais vous avez des contretemps, vous avez des syncopes, etc. Et là, la milonga, c'est une marche, mais qui s'est enrichie d'influences latino-américaines, comme par exemple la banera ou africaine comme le condombé. Et pour que vous sentiez bien la musique de la banera et du condombé, c'est un syncrétisme, c'est-à-dire qu'il y a, un mélange des rythmes, des temps, etc. Et on va essayer de dégager. Victor accepte de nous jouer un rythme de la banera pour montrer la spécificité de la banera. Donc ça, on l'a retrouvé tout à l'heure dans la milonga. C'est un motif rythmique qui se retrouve dans la milonga. Le deuxième apport important, c'est le condambé. Alors là, il n'y a plus rien de militaire dans cette marche-là. Hein. C'est une autre façon de marcher. Donc, c'est formidable. Hein. C'est ce qu'on arrive à faire avec le syncrétisme. Donc, avant de passer à la valse, je veux dire que ce qui me passionne dans le tango, c'est sa dimension interculturelle. Parce que, vous voyez, c'est des rythmes qui viennent d'horizons très différents. Le condombé a beaucoup circulé, mais il est plutôt d'origine africaine au niveau rythmique. La milonga est vraiment argentine. La banera est cubaine. La marche est européenne, etc. Donc déjà, la milonga est une danse très interculturelle. Bon, la valse est une production européenne, mais qui a été façonnée par des allers-retours entre l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la France, etc. Bon, je ne rentre pas dans l'histoire de la valse, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique latine en a fait quelque chose de tout à fait nouveau. Hein, par exemple, on parle de la valse péruvienne, on pourrait rentrer dans le détail des valses, mais on trouve la valse un peu partout. Et l'Argentine va en faire quelque chose de tout à fait intéressant, pas seulement sur le plan musical, mais aussi sur le plan de la danse, puisqu'on a dansé la valse pendant pratiquement 4 siècles, hein, puisque ma thèse, c'est de dire la valse, en tant que valse, est connue que depuis 1750, mais avant, l'ont précédé d'autres danses comme la volta, la veller, en Allemagne, la lander, etc., qui étaient des danses à peu près dansées comme je vais vous montrer maintenant, et qui n'avaient pas évolué au niveau chorégraphique. Il y avait des variations. Si on était à Nogent-sur-Seine, dans une petite fête musette, etc., on dansait serré. Si on était à Vienne, dans un bal de l'opéra, il y avait plus d'espace, on dansait plus écarté, on faisait des grands pas. Mais au niveau du pas de base, au niveau fondamental, la valse n'a pas évolué pendant 4 siècles. Et vous allez voir ce qu'elle est devenue sous l'influence argentine. Alors, je vais faire quelques pas de base du fondamental de valse avec Charlotte, et puis après, elle fera la valse argentine avec Miguel. Thank you. Donc vous avez bien vu la différence, c'est-à-dire que la valse, c'était un pas très simple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis tout d'un coup, ça se décloisonne et on se met à faire des pas de tango, en fait, sur la valse. Alors à quel moment ça s'est opéré, ça ? Mes recherches ne m'ont pas encore permis de trouver la réponse. Je pense que c'est assez tardif. Je pense que dans le bal tango, on a continué à danser la valse à trois temps, la valse répétitive avec le fondamental européen, pendant de nombreuses années. À quel moment les danseurs se sont mis à faire du tango sur la valse, ça je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de mon histoire personnelle, j'ai énormément dansé la valse. J'ai donné des cours de valse à l'université, j'étais fanat de la valse pendant des années, et le jour où j'ai commencé à danser la valse croisée, la valse argentine, je n'ai plus été capable, je m'étais obligé de m'entraîner, si vous voulez, pour faire le pas de base aujourd'hui, sans introduire finalement des fioritures, parce que une fois qu'on a été pris par la valse tango, on ne peut pas en sortir. C'est trop riche de pouvoir faire ces variations et de tourner quand même. Hein, c'est quand même la milonga garde un style de marche et la valse garde un style de valse, mais en même temps, on tourne totalement différemment. Au niveau technique, c'est très, très curieux. Donc, si dans la salle, il y a des Argentins ou des gens qui ont une information sur à quel moment la valse a basculé, si vous voulez, dans le tango, ça m'intéresserait vraiment parce que j'ai 220 livres chez moi sur le tango, j'ai rien trouvé là-dessus. Donc c'est un grand mystère. Et on n'a pas tellement filmé les balles, on n'a pas tellement de traces anciennes, et pour le moment, je n'ai pas trouvé. Donc c'est une question qui reste ouverte. Donc maintenant qu'on a présenté finalement les danses qui ont encadré la naissance du tango, il faut venir dans le tango lui-même, et là, ça nous intéresse, quoi. Comment le tango s'est constitué. Alors, à force de répéter mon que sais-je sur le tango, j'avais fini par croire que c'est moi qui avais inventé l'idée suivante, mais je me suis aperçu que je m'étais approprié l'idée d'un autre, Carlos Vega, qui est un anthropologue des danses folkloriques en Argentine et qui a donné cette idée-là, et que je trouve absolument géniale, hein, c'est qu'au 19e, toutes les danses de couple étaient répétitives, c'est-à-dire la scottiche, la polka, la mazurka, la valse, etc., sont des danses où il y a un pas de base et très très court, ça dure à peu près 2 secondes pour la valse. Pour la mazurka, c'est peut-être 5 secondes. Le pas de basse, c'est un peu plus compliqué parce que l'enchaînement est un peu... la scottish, le fondamental, c'est un peu de polka, un peu de valse. Donc, c'est un arrangement très simple aussi. Et donc, toutes ces danses-là faisaient bal dans la répétition. C'est-à-dire, l'homme et la femme font en gros la même figure, même si elle est en inversion, c'est-à-dire la fille recule quand l'homme avance, etc. Mais on fait les mêmes pas. Par contre... comme c'était très ennuyeux finalement de danser toujours la même chose, hein, il fallait inventer des choses pour rendre le bal agréable. Donc on a inventé la vitesse, par exemple. Au départ, les valses étaient assez lentes, et donc on a accéléré les orchestres, et ça a donné les galops. Je ne sais pas si vous avez dans la tête les représentations de galops dans les bals de l'Opéra à Paris, où les gens se tombaient les uns sur les autres. Donc on accélérait la danse pour créer des événements, en fait. Je ne sais plus comment on appelle ces jeunes qui se poussent les uns les autres là, dans des grandes... Le pogo. Bon, c'était le pogo du 19e. Hein, là. Ça s'appelait le galop, quoi. C'était une valse un peu déchaînée. Alors, les Argentins, eux, ils vont opérer quelque chose de différent. En fait, à côté, pour varier les balles des danses répétitives, en Europe, on avait le quadrille. Le quadrille, en gros, c'était une partition de 16 minutes où on dansait à 8, il y avait 4 couples qui faisaient une chorégraphie, c'était une chorégraphie, c'est-à-dire dictée d'avance. Donc les gens apprenaient dans les cours de danse le quadrille des lanciers, le quadrille de ceci, le quadrille de cela, et l'orchestre avait les partitions jouées, et donc on variait. Et là, dans les quadrilles, on avait des figures. C'est-à-dire, je ne sais pas, là, je n'avais pas prévu de faire une démonstration, mais en fait, les figures de quadrilles, c'est à peu près ça. Donc imaginez un couple devant nous, un autre ici, un autre ici, qui ont fait ta 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 ta, les autres viennent comme ça, etc. Puis après, on se croise. Alors, les femmes passent comme ça, les hommes passent comme ça, on fait des figures comme ça, et ça dure 16 minutes en gros. Avec une variation incroyable dans laquelle on voit que certaines figures de rock, par exemple, étaient déjà dansées par les danseurs de quadrilles. Donc, il faut que je me mette ici. C'est pour l'image. Donc, c'est important de se rendre compte que le quadrille avait déjà inventé la plupart des figures qu'on va retrouver dans le tango. Alors l'invention, si vous voulez, l'invention argentine, le génie, si vous voulez, du tango, c'est d'avoir repris les figures du quadrille et de les avoir installées dans la danse de couple. C'est-à-dire que le quadrille était très militaire, c'était très ordonné par un tambour major, hein, par quelqu'un qui était chef de la danse, etc., et qui dirigeait les choses, parce qu'il y en a qui se trompaient, qui partaient dans le mauvais sens, ça faisait pagaille, etc. Et les Argentins se sont dit, ils n'ont pas raisonné, ils n'ont pas fait une assemblée générale pour décider de ça, c'est spontanément la créativité populaire qui a amené ça, mais les gens se sont dit, ces figures-là, si on les faisait à l'intérieur du couple, à notre rythme, comme on a envie. Bon, la valse avait été une invention énorme par rapport au menuet, puisque, si vous voulez, les couples pouvaient danser individuellement dans l'espace du bal à leur vitesse, certains vite, d'autres plus lentement. Alors, les Argentins gardent ça pour le tango, c'est-à-dire la dynamique groupale à l'intérieur du bal, mais en plus, ils intègrent les figures à l'intérieur du couple. Ce qui donne la possibilité pour un mauvais danseur de faire quelques figures simples et pour les très bons danseurs de faire des figures beaucoup plus compliquées, de varier à l'infini, et donc de porter l'improvisation qui était déjà présente quelque part dans la valse, dans le fait qu'on pouvait circuler dans le groupe comme on voulait. Là, il le porte beaucoup plus loin, puisque c'est la chorégraphie elle-même de la danse qui devient improvisation. Donc, il n'y a plus de chorégraphie. C'est plus écrit d'avance, c'est plus un tambour major qui va diriger le bal. C'est finalement une négociation des couples, les uns par rapport aux autres, pour se laisser le passage, pour négocier leur espace dans le bal. Et la possibilité de faire du tango une danse de séduction. Certes, c'est une danse de séduction, mais aussi une danse de défi. Car le tango, c'est quand même quelque part... aujourd'hui, on n'a amené qu'un couple pour qu'il n'y ait pas de bagarre. Mais si vous avez trois couples sur une scène, si vous allez voir un spectacle de tango, vous pourrez remarquer une rivalité terrible entre les couples. Hein, si un couple est plus applaudi qu'un autre, à la fin du spectacle, vous avez vu, ils ont réussi à se faire applaudir plus que nous. Bon. C'est très mortel pour les danseurs, le tango. Donc c'est une danse de défi. Le tango, c'est une danse de défi. Mais je vais reprendre cette idée-là un peu plus tard. Mais place à la musique, place à la danse. On va vous faire un peu de tango. Hein ? Donc on fait un petit tango là, simple. Hein, un tango de bal. Un tango tel qu'on peut le danser dans une milonga. Et puis après, Miguel et Charlotte, un peu plus tard, nous ferons un tango plus travaillé, plus exhibitionniste. Mais entre deux, peut-être que pour leur permettre de souffler, Victor pourrait nous faire un morceau à lui, quoi. Donc on va vous faire trois tangos, deux dansés et un en solo de Victor. Mais d'abord le tango de bal.
Thank you.
Tu veux dire quel morceau tu vas jouer là, maintenant?
C'est le morceau que bon, on a improvisé, c'est Quejas de Bandoneón, et c'est un morceau de 1910 environ, 1915, et l'arrangement il est des années 40, qui est l'époque d'or du tango, et c'est un arrangement qui est très connu par l'orchestre de Troilo, qui était le bandoneoniste le plus... Pichuco, oui. Le bandoneoniste le plus... En tout cas, Buenos Aires, le père de tous les bandoneonistes, le bandoneon majeur. Et le morceau que je vais jouer maintenant, c'est un morceau qui a été composé par Troilo, mais arrangé par Leopoldo Federico dans les années 60, 70, plutôt. Le petit bandoneon. Il y a quand même 20 ans d'écart entre...
Donc, j'en étais resté au défi. Peut-être qu'il faudrait que Miguel et Charlotte dansent un tango plus. Mais ils vont me laisser 5 minutes encore pour mettre quelques mots dans ce dispositif. Dans mon discours jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop parlé de la musique. Finalement, la musique parle par elle-même. Mais dans ce que disait Victor, il y a quelque chose de très important, à savoir 20 ans d'écart dans la musique, tout change. Pour se donner des repères assez simples, il faut se rendre compte que le bandoneon n'arrive dans l'orchestre de tango qu'en 1908. Avant, c'était un instrument d'église qui servait à l'organiste au moment des processions. Finalement, pour faire le tour de l'église, on utilisait le bandoneon. C'était un instrument allemand qui avait été conçu pour suppléer l'orgue en dehors des églises. Et une fois, un joueur de bandoneon avait utilisé son instrument pour faire un tango en 1898. Mais il a fallu 10 ans pour que l'instrument soit intégré. Alors avant l'orchestre de tango, l'instrument clé, c'était la flûte. Et la flûte va disparaître au moment du bandoneon. Donc il faut se représenter l'histoire du tango aussi avec son orchestre. Les premières années, c'était un orchestre itinérant. Vous aviez 3 musiciens, une guitare, un violon, une flûte, qui allaient jouer ici ou là. Là, on voulait bien donner la pièce. Puis des danseurs se mettaient à danser. L'arrivée du bandoneon va transformer une danse assez guillerette. La flûte, c'est une musique gaie quand même. C'est une musique aiguë. Le bandoneon, c'est un instrument beaucoup plus profond, beaucoup plus complet. Et donc, en 1908, on a déjà une première transformation. C'était une musique, on a dit, de bordel, de quartier malfamé, etc. Ça devient une musique beaucoup plus travaillée. Et finalement, des établissements, des lieux de bal, mais aussi des lieux de concert, accueillent finalement des orchestres qui deviennent plus larges. Vous vous rendez compte ce que Victor arrive de faire avec un seul instrument? Bon. C'est absolument extraordinaire. Mais imaginez, nous étions, Miguel, Charlotte et moi, à Buenos Aires en février. On a fait toutes les milongas ouvertes en février à Buenos Aires. Et on a dansé dans un lieu, je crois, c'est Gloria de Tango. Non, c'était Gloria, c'était là où il y avait 8 bandoneons qui jouaient ensemble. Je ne sais plus si vous... Une pratique de tango, vous avez un orchestre de 20 musiciens avec 8 bandoneons au premier rang, pour une milonga, c'est-à-dire pour un petit bal comme ça, de quartier. Bon, c'est tout à fait effarant. Et donc, c'est vrai qu'entre un orchestre de 3 musiciens, où il n'y a pas encore le bandoneon, et l'orchestre dans lequel on introduit le bandoneon, on introduit le piano, parce qu'à partir de 1910, le piano a sa place. J'ai relu aujourd'hui qu'entre 1908 et 1918, l'Argentine a importé 18 000 pianos. Le piano a conquis sa place, si vous voulez, dans l'orchestre.
C'est le même chiffre pour le bandoneon.
C'est le même chiffre pour le bandoneon. Donc, à chaque piano correspondait un orchestre, quelque part, ou enfin un musicien de tango, vraisemblablement. Donc, le piano, c'est la sédentarisation, c'est-à-dire il faut installer. On ne peut pas transporter le piano, le bandoneon à la rigueur encore, mais le piano, c'est ça veut dire des créations de salles, des grandes salles où on peut installer ces instruments. Et en général, un piano ne joue pas seul le tango. Il y a une contrebasse, il y a des violons, etc. Là où il y a 8 bandoneons, on met aussi 8 violons. Ça permet les contrastes. Bon, je ne suis pas un expert de la musique, le temps nous manque, donc on ne va pas développer davantage la musique, mais disons que si le tango est une danse de défi, le tango a été un défi entre l'homme et la femme, hein, il faudrait le démontrer, mais ce n'est pas une danse de séduction, c'est aussi une danse de défi entre l'homme et la femme. C'est une danse de défi aussi entre les musiciens et les danseurs. Parce que quand on fait l'histoire du tango, on s'aperçoit que si Victor accepte de jouer pour nos danseurs, certains musiciens disaient quand même la musique vaut plus que la danse et je vais composer des choses très compliquées pour qu'aucun danseur n'arrive à me danser. Hein, j'ai le droit d'avoir la scène pour moi tout seul. Donc l'histoire du tango, c'est une relation de défi entre les danseurs et les musiciens. Si vous reprenez l'histoire du bal à Buenos Aires, vous apercevrez qu'à certains moments, les musiciens collent aux danseurs, ils sont avec eux, et de temps en temps, ils disent « bon, il faut qu'on invente des choses en dehors des danseurs ». Et par exemple, Piazzolla a produit un type de tango qui pouvait être considéré comme davantage de la musique classique, qui tirait le tango du côté de la musique classique, la grande musique, hein, et que d'autres se sont plutôt tournés vers la danse de bal. Et donc, si on reprend l'histoire du tango, on s'apercevra qu'il y a toujours un va-et-vient. Les musiciens entre eux ne sont pas d'accord. Certains disent « moi, je veux quand même accompagner des bals ». D'autres disent « non, non, la musique est autonome, on peut l'autonomiser ». Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà étudié dans la valse. Bon, j'ai fait un petit livre sur la valse qui est paru chez Anne-Marie Métayer en 2003, qui est un travail qui vient de paraître à Buenos Aires aussi. Bon, j'avais montré dans ce livre-là que le père Strauss collait aux danseurs, c'est-à-dire il avait un orchestre de 15 musiciens qui essayaient de faire danser, et le fils, Johann Strauss fils, il s'est dit, moi je veux faire des morceaux que les danseurs n'arriveront pas à danser. Donc il a fait des morceaux qui durent 25 minutes. Bon, moi j'ai essayé de danser une valse de Strauss dans des conditions comme ça où on s'épuise, quoi, avec des changements de rythme et tout. Et Piazzolla a eu le même fantasme que Johann Strauss fils de faire des tangos indansables. Bon, et ce qu'il y a de formidable chez les danseurs, c'est qu'ils disent, ils nous lancent un défi, mais nous allons le relever. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que des danseurs dansent du Piazzolla.
La première orchestre de Piazzolla, l'orchestre Piazzolla Fiorentino, c'est la première orchestre qu'il fait quand il parle de l'orchestre de Troilo, c'est une orchestre pour la danse. Le tango traditionnel, il avait fait cette orchestre pour la danse. Et les danseurs, ils ne voulaient pas, parce qu'il y avait trop de notes, parce qu'ils ne sentaient pas les rythmes en quatre. C'était pas que lui, il ne voulait pas que sa musique soit dansée au départ. Il voulait, pareil qu'un autre grand musicien, qui est Horacio Salgan. Horacio Salgan, aujourd'hui, c'est le roi du tango. C'était un antithèse de Piazzolla, parce que Salgan, il voulait faire évoluer le tango dans le tango, alors que Piazzolla, il voulait l'amener vers d'autres lieux. D'autres musiques. Mais Salgan, c'était le même problème. Il avait fait un grand orchestre de 15 musiciens. Et c'était un orchestre pour faire la danse. Mais les danseurs, ils n'arrivaient pas. Ce n'était pas que les musiciens ne voulaient pas. Après, quand...
Oui, c'est vrai, je simplifie un peu mon propos.
Voilà, après c'est vrai que Astor, il a trouvé sa voix et avec son quintet, c'est vrai, et son octet, ce n'est pas du tout une musique pour danser. Ça, c'est vrai que là, il a pris un chemin où vraiment, il faut que ce soit des danseurs professionnels formés qui puissent trouver la façon de danser cette musique-là. Ce n'était pas des groupes, les quintettes ou les octettes, où les gens, les danseurs, le peuple pouvaient danser. Mais...
Alors ça, c'est un point intéressant, si vous voulez. C'est le problème des amateurs et des professionnels dans le tango. Parce que finalement, le tango a beaucoup de succès, hein. Et donc, on en fait aussi une musique de scène et une danse de scène. Et donc, là, il y a quand même un problème. C'est une danse qui est née dans le bal populaire. La musique et la danse sont nées dans la musique populaire. Mais il y a un travail de légitimation de plus en plus élevé. On met des coupes de tango dans les scénettes, par exemple, dans les spectacles à Buenos Aires, etc. On fait entrer tout doucement le tango sur la scène et puis on se met à l'enseigner. Donc on crée les métiers du tango. Les musiciens deviennent professionnels, les danseurs deviennent professionnels, il y a des compagnies qui font des tournées dans le monde, etc. Bon, la légitimation du tango, son institutionnalisation passe par la professionnalisation. Mais donc il y a un défi aussi entre les professionnels et les amateurs. Moi, je suis toujours resté un amateur. Et je vis avec des professionnels. On se lance des défis, quoi, d'une certaine manière. T'es d'accord ?
Tout à fait.
Oui. Donc, peut-être qu'il est temps de refaire un tango.
On va faire un exemple de tango qui n'était pas prévu pour la danse.
Thank you.
Donc, on a vu que le tango, c'était du syncrétisme au niveau de la danse, de la musique, etc. C'est aussi une littérature, le tango. C'est-à-dire, c'est rare, les danses, qui ont constitué aussi des moments de la culture du monde. Par exemple, dans la danse de couple, je ne connais que la valse. La valse, le rock et le tango qui aient laissé une trace sur, disons, au moins un siècle, quoi. Le rock est né un peu après, on ne sait pas encore s'il va tenir un siècle, mais il est bien parti pour. Et dans ces trois types de danse, on a d'une part une musique originale, un style de musique original, un style de danse particulier, des pas qui sont créés, qui sont imposés, et puis aussi une littérature, c'est-à-dire une culture. On peut parler de la culture rock, de la culture tango, de la culture de la valse. Ça a été une époque, il y a eu beaucoup de romans écrits au 19e où les choses se passent dans un bal où on danse la valse. Il y a eu des films, il y a eu une filmographie énorme sur la valse, le tango, le rock. Donc le tango, c'est aussi une littérature. C'est des paroles. C'est un monde que je ne peux pas présenter en une demi-heure. Mon travail, c'est d'évoquer. Hein, donc, de vous inviter peut-être à lire des paroles de tango, de lire des auteurs, des écrivains argentins, mais aussi d'autres pays, de voir comment le tango a inspiré finalement une littérature. Alors, la littérature du tango change énormément. Par exemple, j'ai montré que la complexité de l'orchestre de tango entraînait une modification du tango. Mais avec Victor, tout à l'heure, en venant, on évoquait des personnages qui ont fait évoluer le tango en complexisant la musique. Comme par exemple, j'aime beaucoup Firpo, par exemple, qui a été un pont entre la vieille garde et la nouvelle garde. Où on lui évoquait Carlos Gardel comme quelqu'un qui avait vraiment marqué le tango. Et il me disait, ce qui me frappe chez Carlos Gardel, c'est qu'il a romantisé, il a fait du tango un romantisme. Parce qu'avant, finalement, les paroles de tango, c'était des paroles qui étaient crues, qui étaient dures, qui signalaient la souffrance, finalement, de l'émigration. Puisque l'Argentine était un pays qui accueillait beaucoup de travailleurs étrangers, qui venaient avec l'un avec son violon, l'autre avec sa flûte, etc. Bon, il y a eu beaucoup d'Italiens. Les Italiens qui venaient en Argentine pour s'installer dans la première génération, c'était des gens qui avaient fait les conservatoires. Le père de De Caro, par exemple, avait dirigé le conservatoire en Italie. Il a créé le conservatoire de Buenos Aires. Donc ils venaient avec des traditions musicales qui se confrontaient aux traditions allemandes, françaises, etc. Et puis les traditions locales. Donc l'immigration transparaît comme souffrance dans les paroles de la vieille garde. Et puis tout doucement, on évolue vers une sociologie de l'Argentine, une littérature qui finalement décrit les évolutions de l'Argentine, pour aboutir au romantisme de Carlos Gardel. Et finalement, on a l'impression que l'Argentine a trouvé une sorte de saint, quelque chose d'énorme qui va sauver l'Argentine de toutes ses difficultés. Et à ce moment-là, la catastrophe, quoi, l'accident qui fait disparaître ce personnage qui avait réussi à donner une place à la chanson dans le tango et aux paroles, quoi. Et des paroles rassurantes, des paroles pacifiantes. Pour nous, Européens, on avait vu cette évolution aussi dans le Musette, par exemple. Les paroles de Musette, c'est des paroles qui essayent de parler de la douleur, de la souffrance de la vie ouvrière, populaire, etc., qui ne sont pas très, très politiques. Hein, les premiers tangos étaient des tangos durs, mais pas très politiques. Et finalement, le tango se trouve quelquefois mis en péril par le pouvoir argentin. Et on ne comprend pas très bien pourquoi, parce que c'est une danse et une musique qui, si elle exprime la douleur finalement de la condition humaine n'est pas une arme politique d'un parti, etc. Tous les Argentins, après les soubresauts des premières années, se reconnaissent assez bien dans le tango et dans sa culture. Quelqu'un dans la salle pourrait me dire « Oui, mais il y a quand même des gens qui critiquent le tango en Argentine. » C'est vrai que quand on prend un taxi à Buenos Aires, on a deux possibilités. Ou le chauffeur de taxi est tanguero, ou il est psychanalyste. Bon. Et c'est rare que les psychanalystes argentins soient aussi des tangueros. Ça existe, mais c'est rare. Hein, donc il y a quelques fois dans l'université argentine des gens qui prennent les tangueros de haut. Mais ça commence à changer. J'ai rencontré un Varela qui vient de publier chez Paidos, là, dans cette collection-là. Il est prof à l'université de Buenos Aires. Il vient de publier un livre sur le tango. Et il y a de plus en plus d'universitaires qui s'intéressent au tango. Donc, pour ceux d'entre vous qui lisent Le Monde, vous avez vu peut-être mon article le 30 novembre sur le tango des cités. J'évoque ma rencontre avec le chef de la police de Buenos Aires. Je lui ai proposé, puisque maintenant la police de Buenos Aires est formée à l'université. C'est quelque chose d'assez étonnant, mais l'Argentine veut sortir définitivement de la dictature et la police, qui était encore une petite mafia dans l'État argentin, finalement est en train de se socialiser. Et les futurs policiers de Buenos Aires sont maintenant formés à l'université pendant 3 mois avant d'apprendre le maniement des armes.
Vous savez bien qu'il y a des politiciens sur
l'université. Bon, mais... Ce que je voulais dire, c'était que j'avais vu Christian Varela, qui est chargé de réorganiser l'enseignement de la police, et je lui ai proposé d'inscrire parmi les disciplines enseignées le tango. Et il y réfléchit. Donc je pense que ça pourrait être assez marrant d'enseigner aux policiers le tango.
Il y a deux pays où on peut avoir un diplôme. Des joueurs de bandoneon, par exemple. Le bandoneon, c'est un instrument qui représente la musique argentine. Pas en Argentine, c'est aux Pays-Bas et en France qu'on peut avoir un diplôme de joueur de bandoneon. L'Académie nationale de tango en Argentine, qui a été créée, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 90, c'est un endroit où on peut avoir des conversations comme ici et apprendre beaucoup. Mais on ne peut pas faire, une carrière comme on peut faire aux États-Unis avec la Berklee. On rentre et on ne sait rien du jazz et on sort et on est un grand musicien de jazz. On connaît l'histoire de ça en Argentine. Ça continue à être encore une culture, le tango, des traditions. Ça continue à être oral. On apprend des musiciens qui ont joué, des chanteurs qui ont chanté, des danseurs. Mais on apprend dans les milieux. Mais si on veut avoir un diplôme de formation, voilà. Si on veut avoir un diplôme, il faut aller aux Pays-Bas.
Oui. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un côté assez sympa dans... Par exemple, aujourd'hui, le pouvoir politique en France dit qu'il faut mettre les jeunes en apprentissage à 14 ans ou à 15 ans. Quand on regarde la biographie de Troilo, il a commencé à jouer pour la première fois dans un orchestre à 11 ans. Donc l'apprentissage dans le tango, il est très présent. C'est-à-dire qu'un jour, j'invite Rodolfo Dinzel, qui est un des grands profs de tango de Buenos Aires, qui a été chargé d'un programme pour former 6000 jeunes des écoles au tango, etc. Et donc Rodolfo, je l'ai invité à l'université pour qu'il fasse une conférence, il a publié 3 livres, etc. Et je l'invite après à dîner à la maison, donc j'avais invité des gens très... des universitaires, des collègues, etc. Et je dis à Rodolfo, mais au fait, toi, tu as fait des études dans quelle université, dans quelle discipline ? Et il dit, moi, j'ai commencé à danser à 12 ans, j'ai jamais été à l'école, quoi. Mon école, c'est les orchestres de tango qui me demandaient de faire une valse ou une milonga pour égayer finalement leur truc. Et c'est vrai que ce monsieur-là, Dinzel, a publié 3 livres, ou 4 même maintenant. C'est des bouquins qui sont extrêmement bien construits. Donc il y a une école un peu autodidacte, hein, où les maîtres ont des apprentis et où on se transmet finalement un savoir-faire. Alors je suis d'accord avec Victor que c'est bien que l'université existe aussi, etc. Mais il ne faut pas casser ce rapport maître-disciple maître-élève qui a qui conduit finalement des gens très compétents, des artisans, danseurs, musiciens, littérateurs, poètes, à accueillir des jeunes dans leur terrain, quoi. Ça, je trouve ça très intéressant.
Oui, mais est-ce que je...
Oui, vas-y, vas-y. C'est que
on continue à dire... On dit qu'en Argentine, la bourgeoisie, dans le début du siècle, ne voulait pas du tango, mais malheureusement, ça continue à être le cas. Il y a même dans le 21e siècle, il y a un secteur qui de la bourgeoisie de Buenos Aires que, bon, qui ne veut toujours pas de cette musique. Que, donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune structure.
Il faut qu'on se batte ici à Paris, comme en 1905, pour dire qu'il faut créer des structures universitaires pour le tango. Mais on pourrait créer un département ce soir. Il y aurait une section musique, une section danse et une section poésie. On le crée. On crée l'université franco-argentine du tango. D'accord ?
Voilà.
Tu es directeur du département de musique. Allez, Miguel va diriger le département de danse. Et puis Charlotte dirigera les lettres. Allez, place aux jeunes. Bon, on arrive à la fin de notre temps. Mon rêve aurait été de lancer un débat avec la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Ou des remarques ou des...
Vous n'avez pas du tout parlé du flamenco comme danse de couple ?
Le flamenco n'est pas une danse de couple, hein. C'est une danse de face à face. Il y a eu une influence du flamenco en Argentine. Il y a d'ailleurs une figure du flamenco qui s'appelle tango. Donc au niveau de l'origine conceptuelle, certains se sont demandé si le tango ne venait pas du tango espagnol, du tango andalou. Hein. Mais je pense que ça a été réfuté... parce que c'est une danse de face à face. Alors c'est vrai, Carlos Vega, si vous voulez, distingue les danses de couple ouvert, hein, des danses de couple fermées. Dans les danses de couple fermées, il y a enlaçada, c'est comme la valse, la scottish, etc., où on danse avec une distance entre les deux, et embrassada, où les gens sont vraiment l'un dans l'autre, quoi. Et le tango est une danse embrassada, c'est-à-dire que c'est une danse où on va beaucoup plus proche de l'autre. Et assez bizarrement, on n'est pas collé, c'est-à-dire on ne recherche pas le contact du corps de la femme, parce que la position des danseurs, si elle est très collée en haut, elle est très éloignée en bas. Les danseurs dansent en pyramide, si vous avez observé, parce que finalement, ils ont beaucoup de manœuvres à faire avec leurs pieds. Et finalement, ils ne peuvent pas coller la danseuse en face à face comme il y a dans le slow, par exemple. Le tango n'a rien à voir avec les danses. Et c'est très difficile pour les Français, par exemple, de sentir la nécessité de donner le poids du corps, par exemple. Parce qu'il faut faire une confiance énorme à l'autre. Et, bon. Et donc, si vous voulez, le flamenco, qui est une danse en face à face, c'est des danses où chacun est sur son axe. Et on ne travaille pas du tout dans la relation de poids avec l'autre. Donc, il y a certainement une influence andalouse dans le tango, mais elle est très lointaine et elle a été beaucoup malaxée avec tellement d'autres influences. Quoi, que le fait que ça ne soit pas une danse de couple fermé, à mon avis, c'est pour la danse, hein, ça en fait une influence très lointaine.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur... la constitution originelle du tango. Je n'ai pas très bien compris au départ.
La constitution originelle.
Merci.
Donc, ça se fait entre 1880 et 1900, hein, pendant 20 ans. Donc, c'est une danse qui est dansée dans les quartiers du port de Buenos Aires. Donc, c'est des gens qui dansent un peu comme ça. Avec des orchestres très légers, bon, qui font l'itinérance d'un lieu à un autre. Et au niveau technique de la danse, hein, c'est un syncrétisme entre plusieurs danses. Donc j'ai expliqué, par exemple, l'influence de la marche, de la valse, qui donne le couple fermé quand même par rapport au tango andalou. Mais on a vu avec l'instrument là que il y avait une influence cubaine, la banera, ou africaine avec le tongondambé. Donc c'est un couple fermé, mais alors que le couple fermé européen était un couple assez répétitif, assez mécanique, on dansait presque comme des soldats. McLuhan disait de la valse, c'est une danse qui se dansait en bottes, hein, c'est-à-dire c'était une danse assez militaire en fait, la valse européenne. Là, l'influence cubaine, l'influence africaine donne des syncopes, des contretemps. Par exemple, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, parce qu'il faut être attentif pour voir ça, mais le fait de la milonga d'introduire des contretemps, la femme fait une base, elle fait la marche, et puis l'homme introduit des contretemps dedans. Bon, hein ? Ça peut s'inverser. Bon, de temps en temps, c'est la femme qui fait les fleuritures, l'homme qui fait la base. Comme dans l'orchestre de tango, d'ailleurs, un instrument fait la mélodie, l'autre fait le contrepoint, mais ça s'inverse, tout s'inverse dans le tango. On trouve même des femmes qui guident les couples, etc. On trouve de tout. C'est les travestis, quoi, au pouvoir. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'effectivement, on joue. On joue, on s'amuse, et on introduit toutes les variations possibles. Donc, c'est une danse qui accueille les figures du quadrille, et donc, c'est une danse qui donne un pouvoir considérable aux danseurs. Hein ? Par exemple, l'orchestre de tango, à mon avis, au départ, il était assez improvisé. C'est-à-dire que... Et puis, progressivement, les compositions se sont écrites. Elles ont été enregistrées. On n'a pas assez insisté sur le fait que le phonographe, etc., qu'on ait inventé les enregistrements en 80 tours, etc. Bon, ça a fixé les musiques. Hein ? Mais la danse ne s'est pas fixée. On ne peut pas dire que la danse n'ait pas évolué. La danse a toujours évolué. Mais en gros, vers 1910, on a quand même 25 figures qu'on a encore aujourd'hui dans le tango. Donc la structure du tango existe. Hein, et c'est une danse qui se constitue. Mais bon, on n'a pas de trace sur sa constitution. Hein, entre 1880 et 90, on peut voir que plusieurs danses se mélangent parce qu'on voit le résultat. Mais en fait, il n'y a pas de film là-dessus. Il n'y avait pas d'ethnologues qui ont filmé ça. Il n'y avait pas de... pour les danses françaises, par exemple, comme la contredanse, Louis XIV avait désigné des scripteurs, des gens qui avaient été repérer les danses en Angleterre, qui avaient pour mission de les écrire, de les décrire, etc. Personne en Argentine, hein, n'a eu l'idée de dire il faut décrire les productions populaires. Personne. Les gens ne voulaient pas les regarder, au contraire. Donc, si vous voulez, il y a un immense blanc. On ignore totalement comment ça s'est opéré dans le détail. La seule chose qu'on sait, c'est que ça a été une sorte de miracle, hein, parce que ça a été quelque chose d'extraordinaire, et que comme on ne connaît rien, finalement, sur la manière dont ça s'est opéré, on a écrit des dizaines de livres pour constituer un mythe. Et c'est ça aussi la littérature du tango, c'est ça qui est formidable. C'est puisqu'on ne sait rien sur la genèse finalement de la danse, toutes les suppositions sont possibles. Donc on n'a pas le temps de rentrer dans les délires de tous les gens qui ont écrit sur le tango. Mais sur l'origine du tango, il y a des gens qui disent que c'était venu du Japon, d'autres d'Afrique. Enfin, bon, il y a des livres entiers pour... par exemple, ici à Paris, on a Cáceres, par exemple, qui dit que en fait, l'Argentine au XIXe siècle était peuplée de Noirs. Il n'y avait que des Noirs partout. Et c'était une danse noire, etc. Cáceres est un excellent musicien, mais il compose des tangos africains, si vous voulez. Toca tango, hein, toca tango, ça veut dire je tape du tambour en africain. Donc, il essaye de. C'est sûr qu'il y a une influence africaine dans le tango, mais il en fait quelque chose d'unique comme explication. Et donc, c'est quelque chose d'assez amusant. Si vous avez l'occasion de suivre une conférence de Cáceres, ça vaut vraiment le coup, parce que c'est un autre discours que moi, et c'est aussi intéressant. Lui, il joue du piano, donc il montre un peu comment la musique se façonne, etc. Bon, mais il y a énormément de projections dans les histoires du tango. Et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose de très proche de nous, un siècle, c'est pas loin, et en même temps, de penser qu'on ignore tout de ça, alors que c'est devenu un moment mondial de la danse, de la musique, ça c'est quelque chose d'étonnant.
Je pense qu'il ne faudrait pas séparer la musique de la littérature, de la danse, sinon qu'il existe une interaction totale. Un se nourrit de l'autre. Comme cette semaine dernière, j'ai lu un truc qui ne m'appartient pas. Je l'ai dit, ne m'appartient pas. Qui dit que le tango, c'est nomade. Qu'il prend de chaque culture sans perdre son identité. C'est-à-dire de chaque lieu qu'il a passé le tango, qu'il a vécu le tango, qu'on vive, on prend de cette culture, on se nourrit sans perdre notre identité. Je pense que
c'est un peu l'image de notre société argentine. On n'est pas complètement indien, on n'est pas complètement européen, on n'est pas complètement africain, mais on est argentin.
Et c'est fou parce que cette petite phrase, je l'ai cherchée pendant beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et j'étais très touché parce que je me sentais très identifié à ça. C'est deux choses. C'est nomade, il prend de la culture où est-ce qu'il est, sans perdre l'identité.
C'est Pierre Menette qui a dit ça, non ? Oui. Pierre Menette a publié un livre qui s'appelle Le tango nomade.
On a vu, monsieur, bonjour, bonsoir, on a vu que le tango, pour d'abord être apprécié à Buenos Aires, il a dû d'abord être aimé à Paris. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que les Européens et les Français ont apporté au tango ensuite ? Est-ce qu'ils ont justement, puisque le tango prend là où il va ce qui est de bon, est-ce que les Français, est-ce que les Européens ont apporté quelque chose au tango en retour à Buenos Aires ?
Ils ont apporté la légitimation du tango, c'est-à-dire ils ont autorisé les Argentins à continuer leur expérience, mais en même temps, c'est-à-dire ils ont légitimé les gens qui se lançaient dans le tango par rapport à leur classe dominante qui ne voulait pas les accepter. Donc ça, ils ont fait quelque chose de bien, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient fait ça consciemment, les Français. Par contre, les profs de danse ont fait beaucoup de mal au tango en France, puisque, si vous voulez, ils n'ont pas compris que le tango, c'était une culture orale, et ils ont commencé par l'écrire. Et comme ils trouvaient que les pas étaient très compliqués, ils ont pensé qu'il fallait les simplifier. Hein. Donc, ils ont codifié à mort le tango. Donc, j'ai une collection de manuels de tango depuis 1908 en France. Alors qu'en Argentine, personne n'avait écrit un pas de tango, les Français ont commencé par standardiser. Malheureusement, les Allemands ont pensé que la standardisation française n'était pas suffisante. Ils en ont rajouté. Et quand c'est arrivé en Angleterre, alors là, c'est carrément une catastrophe, c'est un massacre. Le tango anglais, le tango standard, n'a plus rien à voir avec le tango argentin. Donc, si vous voulez, les Européens n'étaient pas mûrs techniquement et, je dirais, ethnologiquement, anthropologiquement, pour accueillir le tango argentin en 1913. Hein ? Donc, ils ont fait un massacre avec le tango. Heureusement, les Argentins ont fait des retours assez réguliers et pour nous remettre les pendules à l'heure.
Si je peux juste ajouter une chose dans ce sens-là, c'est vrai que la standardisation d'une danse, c'est la fin d'une danse vivante. Moi, par exemple, ce qui m'a énormément plu dans le tango argentin, c'est que même s'il y avait une énorme complexité, tous ceux qui ont essayé de danser à apprendre le tango en ont fait l'expérience, que c'est une danse complexe, elle permet aussi l'improvisation. C'est parce qu'il y a une structure assez complexe qu'on peut aussi jouer d'elle et inventer, je ne sais pas, inventer, je ne crois pas, la création, le tango nuevo, je pense qu'on en fait beaucoup, on exagère un peu beaucoup vis-à-vis de ça, mais je pense effectivement qu'il y a, un espace à l'improvisation qui fait que le tango argentin, même aujourd'hui, est toujours une danse vivante. Et la comparaison que j'ai toujours dans le cœur, où je le vis vraiment comme ça, c'est comme si on comparait une langue vivante et une langue morte, quoi. Alors, on peut parler latin, on peut à la limite répertorier tous les mots qu'on a. Le problème, c'est quand arrivent les voitures, comment on va dire une voiture ? On dit char à roulettes, par exemple, pour décrire une voiture, mais bon, ça fige. Et qu'une langue vivante, c'est une langue qui se transforme, qui, au contact, effectivement, peut-être d'autres langues, transforme la sienne. Et pour moi, c'est ça, vraiment, la richesse du tango. Et que toutes les volontés de standardisation, donc C'est, je ne sais pas quelle époque exactement, mais...
C'est 1920.
Ouais, bon, 1920. Et là, on a des relents en France de vouloir effectivement de dire qu'il faudrait créer des diplômes pour des profs de tango, donc pour effectivement légitimer nous, danseurs, par exemple, ou enseignants, mais en même temps avec ce danger de dire, bon, alors, pour faire son diplôme, il faudra savoir faire ce pas, ce pas, ce pas. Est-ce que ce n'est pas amener la danse dans quelque chose qui la rendrait mortifère, quoi.
Donc, par rapport à la question qui était posée, c'est clair que les Français ont fait beaucoup pour le tango, mais ils ont fait aussi beaucoup de mal, hein, je crois. Mais en fait, comme ils ont réaccueilli des Argentins au fur et à mesure des migrations, c'est vrai que le lien Buenos Aires-Paris a été un lien d'une intensité extraordinaire sur la durée. Et l'histoire du tango est vraiment une histoire qui peut être écrite sur le plan Paris-Buenos Aires. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas faire non plus du nombrilisme Paris-Buenos Aires, parce qu'il y a Montevideo, il y a Berlin, et aujourd'hui il y a Tokyo par exemple. Hein?
La Colombie,
etc. Donc, mais c'est vrai que l'axe Paris-Buenos Aires est un axe très intense de création, d'invention, dans tous les secteurs du tango, littérature, poésie, danse et musique.
Pour terminer, vous pouvez nous faire un tango, s'il vous plaît.
Il y a une demande d'un tango.
Je voulais juste demander deux petites choses. D'une part, est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est une danse qui était dansée par les hommes entre eux.
Oui.
Et voilà. Et la deuxième question, c'est dans quelle mesure est-ce que, quand vous avez joué pour la milonga, je crois, vous les regardiez beaucoup, je crois que vous improvisiez un petit peu en fonction d'eux. Et dans quelle part d'improvisation vous vous laissez après dans le morceau un peu plus élaboré, quoi. Vous regardiez votre partition et vous étiez moins en regard avec eux. Est-ce que là, vous improvisiez pas ou...
Et oui, donc dans la milonga, je le regardais parce que bon, je le suivais aussi un petit peu. Et...
On était en train d'improviser aussi.
Voilà.
On est en train de suivre, hein. On se suit mutuellement.
D'accord. Ça improvise des deux côtés, quoi.
Oui.
Oui.
Oui. Et par rapport. Vous
parlez du dernier morceau que nous jouons ensemble, eux avec moi.
Ouais.
Bon, évidemment, c'est une pièce plus élaborée. Donc j'ai moins de place pour improviser et je pense qu'on est tous les deux, on a moins de place. Il faut que ce soit plus structuré, voilà.
Ça veut dire qu'aussi de la part de la danse, c'était plus chorégraphié.
Ah oui, c'était totalement chorégraphié là.
Nous, on a quand même improvisé.
Ils ont improvisé, mais en principe, c'était une chorégraphie. C'est-à-dire dans notre planning, dans notre conducteur, on avait dit une danse improvisée, deux balles, et une danse chorégraphiée. Le problème, c'est que, si vous voulez, bon, ils dansent quand même ensemble depuis 1998, ils sont dans une compagnie, etc. Donc c'est une improvisation qui est quand même très, très structurée, ouais. par le fait de danser ensemble. Hein, donc, si vous voulez, sur l'improvisation, par exemple, les organistes improvisent. Mais ils ont des cadres d'improvisation tellement importants qu'on peut leur donner un thème, mais ils ont quand même des bases, des grilles, si vous voulez, qui font que l'improvisation pour des danseurs professionnels est moins forte, à mon avis, que pour des danseurs de bal. Bon. C'est ce que j'ai essayé un petit peu de dire aujourd'hui, quoi, à travers les évolutions des pas, etc., de montrer que plus il y a de complexité dans la chorégraphie ou dans la musique, plus... on ne peut pas tellement improviser là. On est obligé d'être dans...
L'improvisation est beaucoup plus utile que dans les premiers morceaux. Voilà.
La première question,
c'était quoi ?
Les hommes ensemble.
Les hommes ensemble, alors ça, c'est très intéressant comme question. C'est une question qui est débattue, qui est présentée un peu dans l'histoire du mythe comme que ça serait une danse de PD, etc. Ce n'est pas du tout le problème. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y avait 8 hommes pour une femme, à ce moment-là, à Buenos Aires, que les femmes qui dansaient étaient très peu nombreuses, elles étaient excellentes. Donc, pour qu'un homme puisse avoir une femme pour danser 6 minutes,
il fallait qu'il montre une dextérité extraordinaire. Parce que ces femmes-là n'étaient pas des femmes... c'était des grandes danseuses. C'est-à-dire qu'elles sont présentées comme des femmes de mauvaise vie. C'était pas des putes, pas du tout. Les danseuses de tango, c'était des femmes qui dansaient dans des bacs, dans des quartiers mal famés. Mais c'était d'abord des danseuses, des très bonnes danseuses. Et les hommes se les disputaient, quoi. Et donc, il fallait s'entraîner. Et ici, à Paris, dans la plupart des cours de tango, c'est assez fréquent qu'il y ait 5 femmes de plus que d'hommes. Moi, j'anime un cours à l'Université de Paris 8 de tango depuis 12 ans. Et il se trouve qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Eh bien, si vous voulez, quand vous avez plus d'hommes que de femmes qui dansent dans une pratique, je me suis déjà retrouvé avec 2 femmes dans un atelier où on était 8 hommes, ben on s'est mis à danser entre hommes. Donc si vous voulez, si vous avez un groupe où vous avez 2 femmes pour un homme, vous allez avoir des femmes qui vont apprendre le rôle de l'homme. Et aujourd'hui, on voit des femmes à Paris qui dansent très bien le rôle de l'homme. Bon, c'est très important parce que si vous voulez, comme ça, ça permet à tout le monde de danser, hein, dans une pratique. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'hommes à Paris qui dansent la femme que de femmes qui dansent l'homme. Mais si la démographie se mettait à changer, par exemple, j'ai lu qu'on tuait les filles actuellement à la naissance en Chine, qu'il y a déjà 25 millions d'hommes en plus en Chine que de femmes, et que ça va s'accentuer. Comme les Chinois bon, en sont à la valse en ce moment, c'est pas trop grave. Mais quand ils vont se mettre au tango, ça va poser des sacrés problèmes.
On se lance des... Vous voyez ce que c'est? C'est une espèce de défi par la parole, où c'est de l'improvisation musicale, mais surtout chantée. Et voilà, il y en a un qui parle, il y a la réponse pour l'autre. Bon, là, dans la danse, on pourrait dire, ah ouais, toi, tu sais ce pas-là, mais moi, je sais celui-là. Et puis, on s'entraîne pour au moment où bon, la femme sera là pour choisir. Quoi. Ça rentre dans la théorie du défi.
On va s'arrêter, c'est la dernière question.
Ce que vous savez représenter, c'était très bien. Ça n'est pas de mots, c'est très très bien. Beaucoup de qualités. C'était une danse d'homme, c'était une danse de bordel. On le sait bien, les Argentins. Alors, je voulais vous dire 2 choses. Par exemple, vous, les 4, pouvez-vous me dire chacun quelles sont les émotions et quels sont les concepts dans ce tango? Quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous dansez le tango ou quand vous écoutez le tango? Et l'autre chose, c'est que c'est différent en France, parce que maintenant, c'est le tango, dans 2-3 jours. À l'Argentine, le tango, c'est 24 heures, c'est 24 heures, comme le football. C'est très différent d'avoir le tango quelquefois. C'est complètement différent dans la radio, dans des événements, dans des concerts. Il n'y a pas des orchestres de tango ici, alors on ne peut pas comparer. C'est pour ça que je demande quelles sont les émotions qui se passent pendant tout le temps. Parce qu'on a des études sociologiques sur ce qui s'est passé en Argentine et l'influence du tango.
Je pense que le tango est l'année d'une immigration, d'un exil de plusieurs pays qui sont allés à l'Argentine à chercher à faire l'Amérique. C'est comme ça qu'il en est une scène mixure, une scène mixage. Et par rapport à ce que vous dites, oui, en grande partie, c'est vrai. Par exemple, ma mère, elle peut oublier mon nom, on mélangeait mon nom avec le nom de mon frère, mais par contre, tous les tangos, les paroles, il les connaît par cœur. Par cœur. Il ne savait pas dire qu'en ce moment, moi, j'ai aimé les tangos, hein. Ça ne veut pas dire qu'en ce moment, jamais le tango. Sinon qu'à fur et à mesure, il a commencé à toucher. Il m'a commencé à toucher. Je pense que moi, personnellement, en tant qu'artiste, chaque fois que je me mets à danser un tango, c'est une histoire tout à fait nouvelle. Toute une histoire nouvelle qu'il me passe en train de me toucher. Hein. De me toucher, mais pas me toucher seulement le cœur, de me toucher tout mon corps.
Merci, Victor.
Une fois, Disépolo, qui est quelqu'un qui écrit des paroles, a dit une phrase et il a regretté toute sa vie cette phrase, parce que cette phrase elle est devenue universelle. Et il a dit une phrase qui disait « Le tango est une pensée triste qui se danse ». Il a regretté toute sa vie, ça, parce que le tango, ce n'est pas qu'une pensée triste. Le tango, c'est la vie. Il y a un choix, il y a la joie, il y a beaucoup de souffrance, il y a la joie de la souffrance, il y a la nostalgie, il y a toutes les émotions. Moi, vous me demandez qu'est-ce que je sens, ça dépend du tango. Si je joue Che Bandoneon, ce n'est pas la même chose que si je joue La Comparsita ou si je joue Adios Nonino. Ce sont trois choses différentes. En tout cas...
Excuse-moi que je l'interrompe. Je ne pense pas que deux fois ils touchent le même tango et ils sont la même chose. Hein.
Oui, donc moi en ce qui me concerne, c'est un sujet qui m'intéresse là, les émotions. J'ai écrit 600 pages sur mes émotions dans le tango qui sont publiées en librairie. Donc ça s'appelle Le Moment Tango et les tangomaniaques. Et c'est les gens m'ont dit, vous êtes gonflé de publier vos impressions de danser avec telle fille, avec telle autre, etc. Mais ça m'a semblé très important. J'ai l'impression que le tango est un laboratoire d'exploration des sentiments, de la relation interpersonnelle, etc. Et je suis le seul au monde à avoir pris ce sujet comme objet, si vous voulez, de recherche, je dirais, universitaire. Hein. Et donc, je me ferai un plaisir de vous envoyer mes bouquins. Voilà. Donc, c'est l'heure de conclure. Hein. On est obligé de s'arrêter. Donc, normalement, dans mon programme idéal, si vous voulez, c'est maintenant que commence le bal. Mais ça sera pour la prochaine fois.